C'est très beau la manière dont les chants se sont enchaînés, les deux derniers chants. On a chanté la sainteté de Dieu et puis après on a chanté son sacrifice. Moi je voyais toute la beauté du geste de Dieu envers nous. Il est saint, il est pur et malgré tout il accepte de se salir les mains, si j'ose dire, voilà, de se faire pécher pour qu'on soit, pour nous récupérer, pour nous sauver. Et c'est tellement fort. D'ailleurs, bon, je vais me taire parce que tous les 20 discours, enfin, le Saint-Saëns parle beaucoup mieux que tous les 20 discours. Donc, Mais voilà, je trouvais ça fort. Alors, j'essaye de vous le transmettre comme je peux. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes reposé après ce temps de vacances? Non? Vous voulez encore des vacances? Oui, moi aussi, je veux encore des vacances. Ouais, ça, c'est un temps qui nous a fait du bien, toute notre famille. Ouais, c'est un temps où souvent je peux lire un peu plus autre chose que de la théologie ou de la psychologie. Là, j'ai fait en sorte, j'ai presque réussi à pas en lire pendant mes vacances. J'ai pris des romans, j'ai lu du Musso pour ceux qui connaissent. Je découvrais, hein, je connaissais pas Musso. C'est un auteur français, un romancier français très en vogue depuis plus de 5 ans, je crois. Et ouais, donc c'est des thrillers psychologiques, etc. C'est voilà, polar, bon, c'est chouette quoi. Donc il y a toute une histoire quoi, et on est vraiment pris dans l'histoire. Et on sait hein, comment on aime les histoires. Hein. Voilà, il y a ça. Donc d'abord ça commence, et puis voilà, il y a tout un développement, et puis on a hâte d'arriver au dénouement, surtout quand il y a du suspense quoi. Il y a quelque chose qui nous tient. Mais vous voyez, avec Dieu, il y a quelque chose comme ça. Nous sommes dans une histoire. Nous sommes plongés dans une histoire. Dans une histoire qui a un sens. Et c'est le Seigneur, c'est Dieu qui connaît et qui dirige cette histoire. Il y a des historiens, voilà, enfin, des gens très intellectuels, voilà, qui se posent la question du sens de l'histoire. Alors, il y en a qui pensent que l'histoire n'a aucun sens, que finalement, on vit des cycles. Tout le temps, comme ça. Ça tourne en rond. Et c'est pas ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile nous dit que non, l'histoire, il y a un point A, et puis il y a une ligne, et qu'il y a des événements qui se déroulent, qui sont, il y a l'agenda de Dieu. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose, des choses qui doivent se passer jusqu'à leur aboutissement. Et nous sommes dans cette histoire. Et nous, Église de réveil, de la Chaux-de-Fonds, quelle est notre place dans cette histoire? Cette histoire, c'est comme, si je la représentais, comme une espèce de branche d'arbre, ou d'arbre avec voilà, plein de ramifications. Et on vient manifester cette histoire de Dieu, manifester qui est Jésus, pour que d'autres puissent nous rejoindre dans cette histoire. Et nous, Église de réveil de la Chaux-de-Fonds, où nous sommes dans cette histoire? Et comment savoir où nous sommes? Quelle est notre place et quelle est notre vocation? C'est quoi notre appel? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans cette histoire? Et j'aimerais ce matin parler du Saint-Esprit. J'aimerais parler de celui qui, j'ai envie de dire, qui écrit l'histoire. On va le faire à partir de ce verset. Est-ce que tu pourrais l'afficher, s'il te plaît? Voilà, qu'on va lire ensemble. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que... Désolé, ouais, ça casse tout. Bon, on va le relire. Car ce n'est pas... Ouais, non, c'est bon. Ah, c'était bien, non, mais t'as pas vu que j'ai failli tomber. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ce passage? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui vous vient? L'inspiration de Dieu. Par les apôtres, qu'est-ce que tu veux dire par les apôtres? Ah, d'accord, les hommes, les apôtres. C'est ça? Ok. Ouais, alors oui, dans ces hommes, il y a les apôtres, pas que, mais il y a les apôtres. C'est le Saint-Esprit qui est maître de tout, ouais, tout à fait. Il y a des hommes qui sont sensibles à l'esprit. Bon, c'est bon, alors je vais arrêter là. Ouais. Ah, effectivement, quand il est question des hommes, alors à l'origine, dans le verset, dans le contexte du verset, ce n'est pas tout de suite les apôtres. Ce sont d'abord les prophètes de l'Ancien Testament. Hein. En fait, ce sont ceux qui ont parlé depuis le départ. Hein. On pourrait même mettre Abraham dedans. Tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui se sont laissés inspirer par Dieu. Et ça continue avec les apôtres du Nouveau Testament. Et ça continue avec nous, avec vous. Je voudrais parler de l'Esprit Saint de deux manières, deux points. L'Esprit Saint d'abord comme, je dirais, comme auteur. Est-ce que tu peux... Merci. L'Esprit Saint comme auteur. Voilà, c'est marqué dans le verset que l'Esprit Saint a poussé des hommes à parler. Hein. Quand on prend, reviens sur le verset, s'il te plaît. Quand on prend le verset, en fait, c'est deux fois le même verbe, a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. On pourrait traduire, sinon, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été amenée, mais c'est amené par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à l'origine, vraiment, de cette parole, enfin de cette parole. De un moment de ce qui vient remplir des hommes, des femmes, qui vont non seulement parler, mais qui vont aussi agir de la part de Dieu. Il y a quelque chose comme ça, il y a un mouvement de l'esprit qui nous porte, qui nous pousse. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce mouvement en vous. Mais il y a quelque chose, à un moment, on sait, voilà, on a une conviction et on sait que c'est Dieu qui est derrière. Et là, on a le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je vais dans ce sens-là ou pas? Ou est-ce que je suis la chair? Ou est-ce que je reste dans mes craintes? Ou... Et tous ces hommes-là, dans l'Ancien Testament notamment, si on a la Bible aujourd'hui, c'est parce que eux, ils ont décidé d'écouter. Et pas seulement ceux qui ont écrit, hein, mais tous ceux qu'ils ont vécu. Quand on voit le passage avec Élie, qui à un moment vient en aide à une femme qui est sulamite, qui n'a plus de, je crois que l'histoire c'est, elle a plus rien pour vivre, hein, et donc ses jarres vont, il va lui dire de prendre des jarres et les jarres vont être remplies d'huile miraculeusement. Et c'est parce qu'Élie, il a décidé d'écouter, et la sulamite aussi, que ça a pu se faire et qu'à un moment ça a été écrit. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le Saint-Esprit. Voilà, il n'était pas seulement en train de leur dire, voilà, bon, il faudrait que tu écrives ça. C'est pas ça. Non, le Saint-Esprit, il leur poussait à vivre des choses qui, à un moment, ont été écrites. Et c'est ce qui fait qu'on a la parole aujourd'hui, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue. Quand il y a le Saint-Esprit comme ça qui vient nous remplir et qui nous pousse à parler, c'est comme si... Il y a un moment, on peut pas, cette parole, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, c'est la vie. L'esprit, il est vie. On peut pas le retenir. À un moment, il y a Jérémie qui dit ça. Jérémie, le prophète, il dit, mais je voudrais me taire parce que j'en ai marre de m'en prendre plein la tête, hein, par tout ce, voilà, quand je parle, et en plus, il m'écoute pas. Mais je peux pas arrêter de parler, je peux pas. Je ne peux pas arrêter de parler parce que c'est plus fort que moi. Si je m'arrête de parler, ça me consume, ça me brûle de l'intérieur. Il y a une vie de Dieu qui est tellement forte, qui est tellement grande, qui nous dépasse, que quand l'Esprit Saint comme ça vient de cette manière, bah, voilà, on ne peut pas retenir ce mouvement-là. Et je crois, ou quelque part, peut-être on peut. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, il y a des moments où on peut, mais il y a des moments où c'est tellement fort que l'on ne peut pas. Je me dis en même temps que Jérémie, il avait un tel amour pour Dieu, il avait une telle obéissance, il avait un tel zèle que c'est ça qui faisait aussi qu'il ne pouvait pas. Parce que ce que je veux dire, c'est que Dieu, il ne fait pas de nous des marionnettes. On n'est pas des pantins. Vraiment, on conserve notre liberté. On a toujours la liberté de parler de sa part ou pas. On a toujours la liberté de le laisser agir dans nos vies ou pas. On a toujours la liberté, tu as la liberté de te laisser conduire par lui ou pas. Est-ce qu'à l'image de ces hommes et de ceux qui ont suivi les apôtres, et puis tous les autres tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que j'accepte de me laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'accepte que ce soit l'Esprit Saint qui soit aux commandes de ma vie? Est-ce que j'accepte que ce soit lui, quelque part, qui soit l'auteur de ma vie? En fait, je peux décider que ma vie, soit c'est moi qui continue de l'écrire, enfin je crois, soit c'est le Saint-Esprit. À un moment, vous savez, dans la vie, on se retrouve à des carrefours. On a une décision à prendre. Et quand la décision que l'on prend, c'est une décision où il y a Dieu derrière, ben c'est comme si là, du coup, c'est le Saint-Esprit qui devient l'auteur de nos vies. C'est lui qui écrit les chapitres suivants. Voilà. Et là, on fait partie de cette grande histoire de Dieu. Et ça vaut pour nos vies individuelles, mais ça vaut aussi pour nous en tant qu'Église. À un moment, avec Estelle, voilà, on a décidé de... quand on a reçu cette conviction qu'il fallait venir en Suisse, voilà, y avait vraiment cette conviction qui était là et on sentait qu'on prenait une décision où vraiment on écoutait l'Esprit de Dieu. Et on a vu tout ce que ça a engendré par la suite dans nos vies, tout ce que l'on a pu vivre. Et ce n'est pas terminé. Puis il y avait et ce qui est important, c'est que ce soit vraiment une conviction, que ce ne soit pas sous le coup d'une émotion. Quand il y a des moments où on revenait en France, quand on était dans ce processus de décision, et qu'on revenait en France et qu'on était avec nos familles, on disait « Ah, finalement, je resterai bien en France avec eux. » Voilà, quand on repartait, on était déchirés, on avait « Voilà, si seulement on pouvait rester. » Voilà, mais là, c'était une émotion, parce qu'après, une fois qu'on était ici et qu'on reprenait le fil de la vie, ça restait pas. Et on savait du coup que c'était pas l'Esprit de Dieu qui était derrière, mais que c'était nos émotions humaines. C'est aussi comme ça qu'on peut mettre à l'épreuve, on va dire, cette voix de Dieu en nous. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient pas de Dieu? Quand il y a quelque chose qui persiste comme ça, et puis voilà, tu te lèves le matin, t'y penses, tu te couches le soir, t'y penses, dans la journée, t'y penses, ah, il est fort probable que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit derrière, à partir du moment où c'est quelque chose qui est en accord avec sa parole, que c'est dans la volonté bonne et agréable et parfaite de Dieu. Et ce n'est pas évident de laisser le Saint-Esprit être auteur de nos vies. Ce n'est pas évident individuellement et ce n'est pas évident en tant qu'Église. Parce que nous, on a tendance à vouloir contrôler les choses. D'autant plus dans une Église. D'autant plus dans une institution humaine. On a tendance à vouloir contrôler les choses et je crois que laisser le Saint-Esprit aux commandes de nos vies, bah, c'est lui abandonner le contrôle. C'est lâcher prise. Quand Jésus, à un moment, il vient dire « Mais ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez pas du lendemain. Quelque part, il vient de nous dire de vivre au jour le jour. Chaque jour, voilà, on se laisse guider par la voix du Saint-Esprit. C'est pas évident. Et c'est d'autant plus pas évident dans une vie d'église et dans notre milieu, j'ai envie de dire évangélique, mais voilà, mais tous les autres milieux religieux, où voilà, où on programme des choses, où on a plein d'événements. Là, on s'est retrouvé avec les responsables jeunesse cet été, où on regardait la programmation. Et puis, en faisant ça, je me disais, mais tous les événements comme ça qui se prévoient, il y a des fois, je me dis, mais comment tu vis la vie de l'esprit quand tu as plein de choses comme ça qui sont déjà établies d'avance? Tu sais où tu vas, de toute façon, tu n'as pas besoin de l'esprit quelque part. Vous voyez? Et c'est paradoxal. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets. Mais est-ce qu'à un moment, c'est du coup, c'est ce qu'on a programmé, c'est la programmation qui prend le pas sur la vie de l'esprit, justement. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est un enjeu, c'est d'accepter de lâcher prise et que le Saint-Esprit il guide les choses au jour le jour. Oh! Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'il est auteur de nos vies. Et comment on accepte de laisser contrôler les choses? Ouais, je crois qu'il y a une clé. Je sais pas si je vais vraiment réussir à vous le transmettre, mais c'est dans le fait de savoir aimer de Dieu. Quel que soit, qu'est-ce que, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies, mais on se dit, mais oh là là, mais est-ce que vraiment tu es au contrôle, quoi? Est-ce que tu es aux commandes de ma vie? Parce que là, moi, je te lâche tout, je te laisse tout, je te laisse conduire les choses, et puis il y a telle ou telle chose qui se passe. Et puis là, effectivement, il y a quoi se demander, mais est-ce que vraiment Dieu, il est souverain là dans ma vie? Est-ce que vraiment il est au contrôle de toute chose? Et c'est pas parce que je vivais des choses difficiles que Dieu, il n'est pas souverain. Peut-être au contraire. Il y a des fois, justement, de suivre l'esprit, ça m'amène à vivre des choses qui sont difficiles dans mon corps, dans mon âme. Parce que justement, Dieu, il est en train de me séparer de ce monde. Et je crois que la clé, c'est, quoi qu'il arrive, de se savoir aimer de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est de se savoir aimer de Dieu. À partir du moment où je me sais aimer de Dieu et que je cultive ça, j'ai toujours cette pensée en moi et cette pensée qui vient m'habiter, qui vient habiter mes tout ce que je suis, mes attitudes. Et ben du coup, là, je peux accepter qu'il soit au contrôle. Dieu, il a un tel amour pour nous, un amour qui est si fort, qui est si grand, qui dépasse toute chose, qu'on peut accepter de laisser contrôler les choses, parce qu'il nous aime. Et il connaît nos besoins. Il sait les besoins dans ta vie. Il sait que tu dois faire telle chose ou telle chose pour ton travail. Il le sait. Il prend en considération tout ça, beaucoup plus que tu ne crois, beaucoup plus que toi-même. Parce que lui, il a un éventail, il voit toutes choses. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment se laisser habiter de cette pensée? Moi, ma prière, c'est que vraiment, ouais, Seigneur, tu nous habites de cette pensée, toutes les personnes que l'on est là, ici, présentes, et toutes les personnes qui sont pas là, qui participent à cette église, Seigneur, vraiment qu'on soit habité de ta pensée. Seigneur, j'appelle vraiment cette révélation, parce que c'est une révélation, cette révélation de ton amour sur nos vies, afin que vraiment on puisse te laisser le contrôle. Le Saint-Esprit veut être l'auteur de ta vie. Est-ce que tu es prêt à le laisser écrire la suite? Quoi qu'il arrive. Et le deuxième point dont je voudrais parler, c'est le Saint-Esprit comme interprète, ou je dirais comme traducteur. Voilà, dans le verset, c'était marqué que l'Esprit Saint, il a poussé des hommes à parler. Et c'est marqué aussi avant que ce n'est pas par une volonté d'homme. Hein, c'est pas par une volonté d'homme, j'ai un trou, qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est pas par la volonté d'homme que la Bible elle a été écrite. Il y a vraiment Dieu derrière. Sauf que Dieu, bon, il a fait en sorte que ce soit écrit avec la culture des personnes, avec leur personnalité, parce qu'il nous respecte. C'est pas comme dans le Coran, par exemple, où voilà, où c'est la parole de Dieu, selon ce que l'islam dit. Mais là, non. Et c'est ça qui est fort dans la Bible. C'est que Dieu, il a réussi à écrire sa parole en prenant en compte notre humanité. Il est quand même balèze. Il est très fort. Il est trop fort. Donc, ce n'est pas par une volonté d'homme. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Pierre? Parce que, en fait, ce qui se passait dans l'église à ce moment-là, c'est qu'il y avait des messieurs, enfin, peut-être des dames, je ne sais pas, qui, en tout cas, ce qu'on appelait des faux docteurs, qui commençait à venir et puis il commençait à prévenir, il allait y en avoir un certain nombre quand même, des gens arrogants, mais qui tordaient en fait le sens de la parole de Dieu, qui allaient dire n'importe quoi, dont la vie finalement ne reflétait pas l'application de l'évangile. Mais il mettait vraiment en garde en disant que beaucoup suivraient ces personnes, beaucoup de chrétiens suivraient ces personnes, ou suivront. Et c'est pour ça qu'il vient dire, mais ce n'est pas par une volonté d'homme que la Bible elle a été écrite. C'est par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par une volonté d'homme qu'on peut la comprendre. Elle peut pas être l'objet, le verset qui précède, c'est, elle peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. D'autres traduisent, on ne peut pas l'expliquer seul. Et c'est ce que faisaient ces hommes, et c'est ce que font les sectes. À un moment, ils sortent les choses de leur contexte, et puis ils disent ce qu'ils veulent eux. Et on a tous cette tendance en nous à faire cela. Et c'est pour ça que Pierre, il vient replacer les choses en leur centre en parlant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, non seulement qui est l'auteur de la parole de Dieu, et donc de nos vies, quand on vient faire adhérer nos vies à sa parole, mais c'est aussi lui qui est l'interprète de la parole. Et on ne peut pas la comprendre sans lui. On ne peut pas l'expliquer sans lui. Et il faut voir tout ce qui se passe dans l'Église, tous les débats qu'il peut y avoir sur différentes choses. On n'est pas tous d'accord sur la parole de Dieu. Et ça, ça nous montre que ce n'est pas évident de suivre le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole. Je prendrai l'exemple, je vais essayer de ne pas être trop long, je prendrai l'exemple de l'enlèvement. Je prendrai l'exemple de l'enlèvement parce que on entend parler, parce que Jésus revient bientôt, on entend parler que l'enlèvement pourrait se passer dans peu de temps. Il y a certains même qui posent une date, on parle du 13 et 14 septembre. De cette année, oui. De cette année. Mais, alors, c'est vrai que ça peut nous amener des rires. Moi, je vous avoue que ça ne m'amène pas des rires. Enfin, moi, ça m'a beaucoup troublé. Ça m'a beaucoup troublé quand, en conseil, on en a parlé de cela. Voilà, sur l'enlèvement, ce que je voulais dire, les positions, elles sont diverses. Il y en a qui disent, voilà, qu'il y aura donc, enfin, ça, tout le monde le dit, il y aura 7 ans, ce qu'on appelle d'apostasie. 7 ans avant le retour, avant le début du règne de Jésus au travers du millénium, hein, donc quand il va installer vraiment son règne, hein, sur terre. Et ces 7 ans, alors il y en a qui pensent que l'enlèvement, il se déroulerait juste avant les 7 ans, donc on ne vivra pas ce qu'on appelle la grande tribulation, la grande épreuve, voilà, la colère de Dieu. D'autres pensent que ça sera au milieu des 3 ans et demi, au milieu des 7 ans, je veux dire, au bout de 3 ans et demi. D'autres pensent que ce sera qu'on vivra toute l'apostasie, et puis là, au retour de Jésus, et ben voilà, on est tous enlevés. Laisse-moi continuer. Non, effectivement, je ne donne pas d'option. Enfin, moi j'étais enseigné selon quoi, ben, l'enlèvement, ce serait au bout de l'apostasie. Mais après, quand j'entends des personnes aussi qui disent, ben voilà, non, ça sera avant. Je peux pas dire, bah non, vous avez tort. Je peux pas dire ça. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Et si eux, ils l'ont dans le cœur, ils ont cette conviction, eh ben je dois la respecter. Hein. Moi, j'étais enseigné dans ce point de vue-là, mais ça reste un enseignement humain, ça reste une compréhension humaine. Même si, voilà, qui essaye d'écouter le Saint-Esprit. Et je crois que l'autre point de vue, c'est pareil. Et pour le 13-14, ça soulève des rires, mais il y a des personnes qui ont fait des calculs et tout, qui ont... il y a des personnes qui sont plus ou moins sérieuses, mais il y a des personnes qui sont très sérieuses, voilà, qui viennent dire que, effectivement, le jour de l'enlèvement, on dit que, voilà, on ne sera ni le jour ni l'heure. A priori, dans la culture juive, le jour dont on ne sait ni le jour ni l'heure, en fait, c'est un vrai jour qui existe. Il y a une histoire de pas de constellation, mais de... Il y a des phénomènes au niveau dans le ciel, tout ça. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je connais pas. J'ai pas eu le temps de m'y consacrer. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a des personnes qui très sincèrement disent cela. Et moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça m'a amené beaucoup de troubles. Ça a amené beaucoup de troubles parce que je me dis, mais voilà, si c'est ça, je peux pas ne rien dire. En tant que pasteur, je ne peux pas ne rien dire. Et moi, je me suis dit, mais alors, parce que je pense à tous les gens aussi que j'aime, si effectivement c'est le cas. Je dis que c'est possible. Après, les choses, elles viennent par révélation. Et la révélation, il faut aller la chercher en allant étudier les Écritures. Hein, et il faut se faire sa propre conviction. Mais voilà, je ne donne pas une option. Voilà, pour moi... Il faut suivre ce que dit son cœur. Mais voilà, si c'est vrai, si vraiment Jésus il vient nous, euh, nous enlever à ce moment-là. Moi, je pense à tous les gens que j'aime dans ma famille, tous les gens que je connais et qui ne connaissent pas Dieu. Et je me dis, mais voilà, mais je ne peux pas ne rien dire. Parce que là, le fait est que l'enlèvement, c'est une réalité. Je parlais au début de l'histoire de Dieu. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, il va avoir lieu, que ce soit le 13-14 septembre bien prochain ou que ce soit à un autre moment. L'enlèvement, il va avoir lieu. Et ça, c'est une réalité dont on doit être conscient dans nos vies. Et donc, c'est pour ça que moi, je me disais, mais voilà, je ne peux pas ne rien dire. Alors, je m'imaginais, bon, je vais écrire un truc pour parler de ça. Je vais le poster sur Facebook. Mais je ne sais pas encore, hein, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, moi, ce que je veux dire, je ne peux pas me taire. Parce que l'enlèvement, c'est une réalité qui, de toute façon, doit arriver. Effectivement, ce qui fait dire aussi que l'enlèvement est proche, c'est qu'il y a plein de prophéties dans la Bible, en fait, qui sont accomplies, quoi. Il y a un certain nombre de prophéties qui doivent s'accomplir avant que l'enlèvement arrive. Ah. Bon, c'était juste un exemple, mais pour vous dire comment, voilà. Mais c'était un exemple dont je voulais délibérément parler parce que je crois que c'est important. Hein? Et on ne peut pas se taire là-dessus. Après, chacun, voilà, on recherche dans la. Voilà. Moi, il y a des fois, je me dis, quand je vois comment le monde tourne, mais à un moment, je lisais un article sur les migrants, ceux qui sont pas requérants d'asile, mais ceux qui viennent clandestinement, là, qui fuient des régimes politiques voilà, qui sont affreux. Et quand vous voyez ce qu'ils vivent, j'entendais des témoignages qu'ils vivent avec des passeurs. Voilà, et ce que l'homme peut faire à l'homme, mais c'est affreux. Moi, quand je lis des histoires comme ça, quand je vois les conflits, mais je me dis, mais moi, j'ai envie de me casser d'ici. J'ai envie de partir. Je veux vite que Jésus y revienne. Et en même temps, je suis partagé, parce qu'en même temps, je vois toutes les personnes autour de moi qui ne connaissent pas Jésus. Et moi, j'ai envie qu'elles partent aussi. Vous voyez? Ouais. Ouais, ça fait 2000 ans, ouais. Non, c'est pas d'hier. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis même l'enlèvement, je ne sais pas s'il y a des versets dans l'Ancien Testament. Bon, bref. Enfin voilà, ce que je voulais dire, voilà, il est important que ce soit le Saint-Esprit qui nous traduise la Bible. Vous n'allez pas essayer de lire, de comprendre une langue étrangère sans un traducteur. Si c'est une langue que vous ne comprenez pas, il faut que vous ayez des bouquins pour vous l'apprendre et tout ça. Ben, le Saint-Esprit, voilà, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, mais en même temps, il y en a qui disent, mais non, c'est ça, mais sinon, c'est ça, non, c'est ça. Alors, comment faire, hein? Parce que tous, ils disent qu'ils écoutent le Saint-Esprit. Je crois que là, ce qui est important, c'est justement de rester dans l'amour. De la même manière que on laisse le Saint-Esprit être au contrôle de nos vies parce qu'on sait que Dieu nous aime d'un amour infini, eh ben, on laisse le Saint-Esprit nous expliquer la parole. Ça veut dire qu'on laisse ouvert les choses. On laisse le Saint-Esprit. Parce que voilà, par exemple, pour le 13-14 septembre, ça reste des hommes. Moi, je me dis, on peut toujours se tromper. On peut toujours. Il y a toujours la grille de lecture humaine qui est là. Il y a toujours la grille de lecture humaine qui est là, quels que soient les points de vue. Donc, on a à rester dans l'amour et de savoir que de la même manière que Dieu, il aime, il m'aime, Dieu, il aime l'autre. Même celui qui a un avis différent du mien. Et il me demande d'aimer la personne, même si je ne suis pas d'accord. Et c'est ça qui fait que le Saint-Esprit, il reste l'interprète, il reste le traducteur. C'est ça que c'est le Saint-Esprit qui est toujours à l'origine de l'histoire qui s'écrit avec Dieu. Voilà, je vais terminer le message là. Je voudrais vraiment. Donc, ouais, finalement, quel est le plan de Dieu? Pour nous, quel est le plan de Dieu pour toi dans cette rentrée scolaire qui peut-être va pas durer? Non, mais on ne sait pas. Quel est le plan de Dieu pour notre Église? C'est pas évident de parler justement, de se projeter dans l'avenir tout en ayant voilà cette conscience de cet événement. Waouh, vraiment Dieu, il nous dépasse. Hein. Moi, je suis voilà, moi je peux rien dire. Alors, quel est finalement, voilà, bah, qu'on puisse laisser vraiment la place au Saint-Esprit dans nos vies. Qu'on puisse laisser le Saint-Esprit être l'auteur de nos vies. On va prier. Je vais prier et puis on va laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans ce qu'il veut nous conduire pour le temps qui nous reste dans ce culte. Saint-Esprit, c'est vraiment à toi que je veux m'adresser ce matin. C'est à toi que nous adressons ensemble. Tu vois comment nous, on est, voilà, on prévoit les choses. On a tout notre programme et tout. On gère notre temps, on gère notre argent. Dans quelle mesure, toi, on te laisse être à la source de nos décisions, de la manière dont on mène nos vies, que ce soit nos vies à chacun, que ce soit notre vie d'église. Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour les fois, parce qu'elles ne manquent pas, où on ne t'écoute pas et finalement on suit notre ligne à nous. Je prie vraiment que tu puisses nous conduire. Je prie que tu nous conduises, malgré nos erreurs, malgré cette tendance au contrôle en nous. Je prie, Saint-Esprit, je prie vraiment que nous ne soyons pas des personnes religieuses. Dans le nom de Jésus, esprit de religion, tu pars d'ici. Tu pars d'ici maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de religiosité, vous n'avez aucun droit ici. Je vous les retire et je brise votre pouvoir. Et je te remercie, Saint-Esprit, de prendre toute la place par rapport à tout ce qui doit arriver dans les jours, les mois qui vont venir, que vraiment que ce soit toi qu'on écoute, qu'on sache vraiment se mettre ensemble autour d'une table et ensemble, en équipe, capter ta volonté pour la mettre en œuvre ensemble. Vraiment que ce soit toi le but de nos vies, ô Seigneur. Je te remercie vraiment de visiter chacun maintenant. Je te remercie de visiter chacun. Saint-Esprit, tu sais où chacun en est dans sa vie. Je te prie en particulier pour ceux, je crois que je pourrais prier pour tout le monde, et puis y compris pour moi, pour ceux qui ont du mal à lâcher prise. Et peut-être qu'il y en a qui ont plus de mal à lâcher prise que d'autres. Vraiment que tu puisses recevoir l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Vraiment que l'amour de Dieu puisse descendre sur ta vie maintenant, dans les heures, les jours, les semaines qui vont suivre, que tu puisses vraiment vivre cet amour de Dieu. J'appelle ton amour au Seigneur sur les vies de chacun ici. Et que vraiment cette tendance au contrôle, elle puisse être bannie. Je te remercie, Seigneur, de ton œuvre. Je te remercie, Saint-Esprit, de ton œuvre. Conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous. Que ce soit toi qui nous pousses, comme tu as poussé ces hommes qui sont à l'origine de la parole, de l'écriture de la parole. Que tu nous pousses. Que tu ramènes ceux qui ont quitté ton histoire. Que tu les ramènes dans ton histoire. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, et c'est l'esprit de la promesse. Il nous a été donné par le Père. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui fait que Dieu y vit en toi. Hein? Jésus, il est à la droite du Père. Hein? Jésus, il vit en nous par son esprit. Il est à la droite du Père, Jésus. Le Père vit en nous par le Père. Il dit que le Père demeure en nous, mais le Père demeure en nous par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est vraiment le cadeau de Dieu, le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que Dieu, il vient habiter par sa nature en nous, il faut pouvoir y vivre. Hein. Vous vous rendez compte, hein, c'est tellement fort. Je voudrais qu'on vive l'offrande d'une manière aussi particulière. C'est fort l'offrande, il y a quelque chose symboliquement qui est fort. L'argent, c'est ce par quoi nous contrôlons nos vies. Et on dit aussi que le temps, c'est de l'argent. Et on a un certain contrôle aussi sur notre temps. Ben, qu'on puisse, vraiment que vous puissiez vivre ce geste de l'offrande en laissant le contrôle au Saint-Esprit. Dans vos vies à chacun, et on va le faire communautairement. Enfin, on va laisser, enfin, c'est dans la pensée. Enfin, on va laisser les corbeilles, voilà, circuler. Et puis, et si le groupe de louanges peut venir, vous avez un chant pour l'offrande. Puis voilà, on va vivre ce temps en disant, mais voilà, Saint-Esprit, je te lâche ma vie. Je te donne ma vie. Vraiment, je veux plus contrôler toutes les choses par moi-même. Je veux que ce soit toi qui sois au contrôle. Je veux vraiment t'écouter tous les jours. Tous les jours que tu places, à chaque fois, je veux aller dans la direction que tu donnes. On va vraiment donner dans cet esprit. D'accord? Jeunes, ceux qui n'ont pas peut-être d'argent à donner, mais que vous puissiez. Ouais, qui est un. Vous prenez une corbeille, vous faites comme si vous mettiez quelque chose.
Vous prenez rien, hein? Mais voilà, vous. Hein, et vous faites ce geste, la corbeille elle passe, la laissez pas passer. Vous faites le geste de vous donner ce contrôle, hein, de vos vies à Dieu. D'accord? Allez, on va vivre ce moment maintenant.